Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Asie. Son rôle décisif et méconnu dès le début du XXe siècle sur la scène du monde. La place de l'Asie a longtemps été négligée dans les relations internationales et pour comprendre l'histoire du XXe siècle, on a longtemps pensé qu'il fallait surtout connaître les relations franco-allemandes, la poudrière balkanique ou encore la question des frontières polonaises. Une vision très euro-centrée qui semble voler en éclats à l'heure où l'on se rend compte que ce sont davantage les relations sino-japonaises ou sino-indiennes ou encore la question coréenne qui importe. Regard sur le facteur asiatique dans les choix de politique étrangère, particulièrement aujourd'hui, alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine se révèle de moins en moins masquée et que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait être annonciatrice d'escalade des tensions entre les deux puissances. Nos invités par téléphone, Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, auteur de plusieurs ouvrages dont East Asia's Reemergence and Global Systemic Change, c'est, je le cite en anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français, à Polity Press à l'Université de Cambridge. Philippe Golub, bonjour.
Bonjour.
En studio avec moi, Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales, qui enseigne à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs ouvrages également, dont le dernier, L'histoire du monde se fait en Asie, chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Hugues Tertrais, professeur émérite à l'Université Paris 1, fondateur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Asie pacifique au XXe siècle, paru chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Grosser, comment expliquer que la place de l'Asie ait si longtemps été négligée dans les relations internationales? Est-ce qu'il y a une volonté délibérée, un eurocentrisme exacerbé? Et que finalement nous apprend l'étude de la place de l'Asie dans les relations internationales au XXe siècle qui permet d'éclairer d'un jour différent ce qui se passe au XXIe siècle?
Pierre Grosser. Alors c'est vrai que pendant longtemps dans les manuels généraux d'histoire des relations internationales, l'Asie fait l'objet d'un chapitre à part et que évidemment tout est très concentré sur l'Europe. Ça c'est quelque chose qui s'est accentué depuis les années 50-60, sans doute avec la fin des empires, parce que l'Asie soit très importante pour les relations internationales, ça n'a jamais été une interrogation pour les Britanniques, parce que l'Empire britannique est quand même très largement asiatique. Pour les Russes, mais ça, évidemment, nous aussi, on a tendance à voir les Russes en Europe, alors qu'ils sont quand même un peu partout, notamment en Asie. Et pour les Américains, puisque la première grande expansion, à part l'Amérique latine de la part des Américains, c'était plutôt en Asie, avec notamment l'installation aux Philippines en 1898. Et donc, c'est pas totalement nouveau de replacer l'Asie dans le cadre général des relations internationales, qui sont toujours globales. On le voit aujourd'hui que les dossiers asiatiques sont corrélés à d'autres dossiers, mais c'est quelque chose qui a toujours, je pense, existé. Donc l'objectif de l'ouvrage que j'ai fait est de montrer à la fois les relations internationales en Asie, les politiques asiatiques de toutes les grandes puissances, mais essentiellement les grandes puissances britanniques, russes et américaines, et puis surtout en quoi est-ce que l'Asie et les affaires asiatiques ont changé la face des relations internationales d'une façon générale. On pourrait prendre évidemment un nombre considérable d'exemples sur les origines de la première, la deuxième guerre mondiale. Dès les années 20 en Mandchourie, il y a des transformations majeures. Mais par exemple, on oublie toujours que lors de la crise de Cuba en octobre 1962, date très célèbre, et bien au même moment, il y avait une guerre entre la Chine et l'Inde. D'ailleurs, dans l'actualité très très récente, et bien il y a des tensions entre la Chine et l'Inde et beaucoup se rappellent cette guerre de 1962 au même moment que la crise de Cuba.
Et plus récemment, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, vous faites un lien entre les événements de la place Tiananmen en Chine et l'effondrement du mur de Berlin. On est là en 1989, on y revient dans quelques instants. Philippe Golub, un commentaire?
Je pense effectivement que l'Asie dans son ensemble, mais l'Asie orientale en particulier, occupe une place prépondérante dans les relations internationales, mais ceci dès... Évidemment, on est en train de parler des relations internationales modernes, des relations internationales contemporaines. Dans l'ère moderne, l'Asie orientale quand même, la Chine, le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, représentaient des centres d'une économie mondiale très moderne, ou early modern, du début de ce qu'on considère comme étant la modernité, qui se sont effacés pendant assez longtemps du fait colonial et qui aujourd'hui sont en réémergence. Donc on est aujourd'hui dans un moment de rééquilibrage, me semble-t-il, dans lequel en particulier la Chine, mais pas seulement, sont en train de reprendre la place qui était la leur dans des conditions entièrement nouvelles et différentes, au XVIe et au XVIIe siècle, c'est-à-dire comme cœur semi-autonome d'un système mondial globaliste.
Hugues Tartrait, finalement, en quoi est-ce qu'il est important de se retourner sur ce passé pour bien comprendre cette reprise de la place de la Chine ?
De toute façon, les pays asiatiques jouent et ont joué un rôle extrêmement important dans les relations internationales et dans l'équilibre des forces ou le déséquilibre des forces dans le monde. Un certain nombre de décisions importantes sont prises en Asie qui concernent la planète, et donc on ne le voit pas si souvent.
Vous pensez à quoi spontanément ?
Spontanément, je pense par exemple aux décisions politiques et économiques de moderniser la Chine en 78-79. On voit bien le résultat aujourd'hui. Et donc, il y aurait beaucoup d'autres exemples. Ce que je veux dire, c'est que l'Asie n'est pas périphérique par rapport à nous. Il faut décentrer le regard sur le planisphère. Nous, on est habitués effectivement à un planisphère centré Europe. Le monde existe en dehors et c'est ce monde qu'il faut considérer, bien sûr.
Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Hugues Tertrais, la modernisation de la Chine, Pierre Grosser. Si je me souviens bien, il y avait en 1883 le livre de Pearson, National Life and Character, qui expliquait que la volonté de moderniser la Chine se retournerait contre l'Occident. Donc il y avait déjà, fin du 19e, début du 20e, cette vision de quelques personnalités. Plus tard, on peut là aussi aborder le général de Gaulle et puis rappeler le voyage de Nixon en 1972 en Chine.
Oui, l'idée de péril jaune, alors péril économique ou péril démographique, a été entre guillemets inventée à la fin du 19e siècle, a eu un rôle absolument majeur au début du 20e siècle. C'est quelque chose qui était important en Russie. L'Allemagne a beaucoup utilisé l'idée d'un péril jaune pour que les Russes regardent très très loin vers l'Asie et que les Américains soient plutôt concentrés sur l'Asie. Cette vision géostratégique, mais par exemple d'un point de vue démographique, que ce soit en Australie, aux États-Unis, il y a eu quand même des législations anti-immigration asiatique, et au Canada aussi, plus ou moins au Mexique, qui ont été pratiquement globalisées, donc cette idée de péril jaune. Et puis le péril jaune économique, c'est effectivement au tout début du XXe siècle, on a vraiment eu cette impression qu'il pouvait y avoir, avec ce dynamisme japonais qu'utiliserait la main-d'œuvre chinoise, l'arrivée de produits bon marché qui ruineraient les économies européennes. Donc finalement, c'est un thème qui n'est pas si récent, hein, ce péril jaune, même si évidemment, il revient par période. Hein. On l'a eu évidemment avec l'expansion japonaise dans les années 30. On l'a eu surtout dans les années 1980 avec la montée en force du Japon. On oublie toujours qu'on a eu très très peur que le Japon remplace les États-Unis, ou peut-être certains le souhaitaient. Mais en tout cas, qu'il y avait un dynamisme japonais qui rachetait tout aux États-Unis, hein, enfin qui rachetait un certain nombre de choses aux États-Unis.
Europe.
Et en Europe, bien entendu. On se souvient de certaines phrases de Madame Edith Cresson, notamment, qui sont restées célèbres. Donc, il y a une tradition du péril jaune, avec aussi cette idée qui court aussi à travers l'ouvrage et à travers toutes les réflexions, l'inquiétude des Occidentaux de se faire expulser d'Asie. C'est-à-dire, on a été présent, on a colonisé, etc. Et l'idée qu'il y a un bloc asiatique et que l'Union soviétique joue ce bloc asiatique contre les Occidentaux, pour la guerre d'Indochine que Tertrais connaît très bien, il y avait tout ce discours que, en fait, l'Union soviétique utilisait le racisme des populations jaunes pour expulser les Occidentaux d'Asie.
Hugues Tertrais.
Il n'en reste pas moins que personne n'a vu venir la montée en puissance de la Chine. Et ça, effectivement, dans les mêmes périodes des années 80, les années 70, il manquait pas en France, je vais pas les citer, de gens pour expliquer qu'un décollage de la Chine à vue humaine n'était pas envisageable. Et donc, tout le monde était surpris. Et pour autant, je rappelle que le décollage économique de l'Asie, bien sûr, ne vient pas de Chine. Mais il y a le Japon avant, bien sûr, et le retour du Japon. Mais même dans la période la plus récente, la Chine est montée dans un train qu'elle n'a pas lancé. La croissance asiatique, c'est pas elle. Ce sont les années 70, mais c'est pas elle au départ. Une fois qu'elle est rentrée dedans, effectivement, ça a changé la donne. Bien sûr. Parce que les conditions et la masse chinoise modifiaient complètement la question. Et aujourd'hui, en effet, si on regarde pas seulement en termes de population, mais en termes économiques, la hiérarchie des puissances, on se déplace vers l'Asie et, à vue humaine, cette fois, les grandes banques qui font des projections nous donnent des trios de tête qui sont essentiellement asiatiques. En particulier, à l'horizon 2050. Alors bon, il y a plusieurs estimations, il y a plusieurs prévisions, mais bon, on aurait un monde dominé par, je cite dans l'ordre, la Chine, les États-Unis, l'Inde et le Japon tout de même toujours.
Alors, on reviendra sur la question du Japon. Philippe Golub, personne n'a vu venir la montée en puissance de la Chine. Dans cette vision que nous avons finalement des relations internationales, je pense à l'après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, on a évoqué le fait que le plan Marshall ait largement contribué à la puissance américaine. Finalement, l'Asie, elle aussi, a eu un rôle très important dans la construction économique et dans la puissance économique des États-Unis, Philippe Golub.
Tout à fait. Si on analyse de près les flux financiers, l'aide économique directe et ainsi que l'aide militaire apportée par les États-Unis en Europe, en Asie orientale, en Afrique et en Amérique latine, on s'aperçoit que si effectivement l'Europe constitue le cœur de l'effort américain d'après-guerre, l'Asie orientale est en deuxième place avec des flux quand même très importants, 18,9 milliards de dollars entre 1947 et 1962, c'est-à-dire à peu près 200 milliards de dollars d'aujourd'hui dans des investissements qui sont aussi bien civils que militaires. Il faut souligner le fait que les États-Unis, pendant la période qu'on appelle la guerre froide, qui n'était pas froide en Asie orientale, qui a toujours été chaude en Asie orientale, avec une paix armée en Europe, que pendant cette longue période à la fois de bipolarité et de conflit entre les États-Unis initialement et la Chine, les États-Unis ont soutenu pendant longtemps des États développeurs, dirigistes, qui n'étaient pas du tout sur le modèle libéral classique, britannique ou d'ailleurs américain, et qui ont réussi spectaculairement. C'est vrai de Taïwan, c'est vrai de la Corée du Sud, ce que disait Tertrais sur le fait que le Japon est précurseur est effectivement évident. Mais c'est aussi la Corée du Sud et Taïwan. Il y a eu une série d'États développeurs qui, dans une dynamique régionale, ont eu des succès spectaculaires. Et la Chine s'est fondée dans ses réformes de 78-80, 1984, sur des États développeurs est-asiatiques et non pas sur des modèles de type occidental classique. Et le résultat est tout à fait spectaculaire. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat en Chine est passé de 250 dollars par habitant en 1980 à peu près 14 000 ou 15 000 dollars aujourd'hui. On est là dans une dynamique de développement régional dans laquelle, évidemment, il y a des différenciations nationales.
Un commentaire, Pierre Grosser, Ultertrès, sur ce que vient de dire Philippe Golub.
Oui, bien sûr, les États-Unis ont été pendant très très longtemps le moteur de la croissance asiatique, non seulement par leurs investissements, mais essentiellement par leur marché. Le redressement du Japon a été fait en contre, finalement, un certain nombre de producteurs américains qui étaient assez protectionnistes, qui ne voulaient pas de concurrence japonaise, et on leur a tordu le bras aux États-Unis à partir de Kennedy. Et Nixon, c'était très compliqué parce que c'était ses électeurs, pour ouvrir le marché américain aux produits japonais. Ça a été la même chose pour la Corée du Sud, pour Taïwan, etc. Le grand tournant arrive en 1990, quand les exportations japonaises se dirigent plus vers l'Asie que vers les États-Unis et l'Amérique du Nord d'une façon générale. Et on assiste, et d'ailleurs, je me souviens d'un certain nombre de rapports qui étaient publiés au début des années 90, un recentrage asiatique, c'est-à-dire que désormais, l'essentiel du commerce des pays asiatiques est quand même entre pays asiatiques, même si les États-Unis conservent un déficit commercial important avec ces pays, mais qui finalement n'a pas augmenté de manière si colossale, puisque le déficit qui était avec le Japon est maintenant un déficit qui est avec la Chine. Les États-Unis sont un moteur de la croissance asiatique, et la grande question, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des moteurs asiatiques à la croissance asiatique, et notamment un recentrage même chinois de la croissance chinoise.
Hugues Tertrais.
Oui, je voudrais souligner le fait que dans toute cette période, il y a une particularité régionale qui est le face-à-face entre des États capitalistes assez agressifs, assez dynamiques, du Japon à Singapour, en passant par Taïwan, évidemment. Et de l'autre côté, un communisme, il ne faut pas l'oublier, également agressif à sa manière, en tout cas très différent. Et la confrontation entre les deux, c'est la zone littorale de l'Asie-Pacifique, l'Asie qui tournait vers le Pacifique. Et cette confrontation a produit et a encouragé un mode de développement qui passe effectivement par une méthode assez japonaise. L'État joue un rôle important, l'État développeur, un certain protectionnisme aussi, et un mode de croissance assez unique que le côté communiste de l'Asie a fini par avaliser et intégrer également. C'est toute la puissance de la Chine.
Le modèle de la Chine ayant été beaucoup Singapour, plus aussi que le Japon. On a pris beaucoup de technologies japonaises, mais il y a une fascination pour Singapour, parce qu'il y a aussi un aspect autoritaire, alors que le Japon n'est pas...
Je crois que la méthode japonaise a inspiré beaucoup de monde, y compris en Chine.
Oui, je n'ai pas dit que le Japon n'avait pas été utile, mais le mélange entre efficacité économique et ordre politique, c'était plutôt Singapour, et les relations entre Lee Kuan Yew et Deng Xiaoping étaient très serrées.
Philippe Golub.
Il faut souligner aussi qu'au début de la transition chinoise vers le capitalisme d'État, parce qu'il s'agit bien de ça au départ, qu'au début de la transition, les dirigeants chinois ont eu des relations très fréquentes, très profondes et régulières avec les planificateurs japonais du MITI, Ministry of International Trade and Industry, qui servaient à la fois de conseillers et de modèles à l'État développeur nouveau chinois qui allait émerger par la suite.
Ils sont plutôt allés, regarder beaucoup les planificateurs hongrois et autres dans les économistes. Et ce qui est très fascinant, c'est 78-79, c'est les économistes chinois qui sont partis partout dans le monde, essayer de voir, j'allais dire, les meilleures pratiques. C'est vraiment le pick and choose que les Japonais avaient fait d'une certaine façon, à partir des années 1860-1870. Et bien, ils ont fait pareil, et ils ont fait effectivement une mixture assez spéciale en prenant, entre guillemets, le mieux de chacun.
Alors, pour terminer cette première partie d'émission, et je l'avais évoqué en début de première partie, la question du lien, Pierre Grosser, je me tourne vers vous, entre les événements de Tiananmen au printemps 1989 et la chute du mur de Berlin. Là aussi, c'est un focus asiatique que l'on n'a pas forcément mis en avant dans l'évolution ensuite d'un certain nombre d'événements, notamment européens.
Oui, alors sur le rôle de l'Asie ou du facteur asiatique dans la fin de la guerre froide, il y a des aspects plus structurels, c'est-à-dire que en 1989, avant les événements à l'Est, quand on demandait aux États-Unis quelle était la menace principale, les Américains ne disaient pas l'Union soviétique, ils disaient c'est le Japon. En revanche, pour vraiment ce qui se passe au printemps et à l'automne, le fait qu'il y ait eu des massacres, la Tiananmen n'est plus généralement en Chine, on se focalise sur la place Tiananmen, mais c'était plus large, qui ont fait beaucoup moins de morts que dans l'histoire chinoise récente. Mais c'est quelque chose qui a absolument fasciné et intéressé tous les acteurs à l'Est et bien entendu les Américains. C'est-à-dire que les Américains ne voulaient pas souffler sur les braises en Europe de l'Est parce qu'ils se disaient, un, il va se passer comme à Budapest en 1956, il va y avoir répression, et deux, il va se passer la même chose qu'à Tiananmen, c'est-à-dire il va y avoir répression. D'où une certaine prudence de Bush père, qui était à ce moment-là président. Et d'autre part, à la fois les pouvoirs communistes et les opposants, pour aller très très vite en Europe de l'Est, étaient fascinés par ce qui s'est passé à Tiananmen. On voit un certain nombre de régimes durs, comme la RDA par exemple, qui applaudit à Tiananmen. Il n'y a jamais eu autant d'échanges entre Chinois et Allemands de l'Est à ce moment-là. Et ce qui fait que les manifestants à Leipzig en octobre 1989 ont pris quand même de grandes responsabilités en étant dans la rue. Ils avaient peur d'un Tiananmen est-allemand. Et donc, ça explique la prudence de tous ces manifestants et peut-être le caractère pacifique de ce qui s'est passé en 1989 parce qu'on ne voulait pas provoquer les pouvoirs et avoir justement ce Tiananmen chinois. Dans l'ensemble, Gorbatchev a aussi été marqué puisque c'est lié à son passage et à sa visite en Chine.
Une visite écourtée.
Visite écourtée parce qu'évidemment, les manifestants aller vers lui en disant ben voilà comment est-ce qu'on fait des réformes politiques, et donc là aussi il ne voulait pas pousser à la répression, il a été vraiment très favorable à des solutions beaucoup plus pacifiques. En revanche, qui est évidemment intéressant, c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique et de la crise de l'Union soviétique, les dirigeants chinois ont validé leur stratégie à Tiananmen en disant ben voilà, nous on a mis le holà suffisamment tôt, on a un régime stable et on a une croissance économique forte, regardez l'état de l'Union soviétique puis de la Russie après 1991. Donc bravo à nous.
Victor Trey.
Oui, je crois que les correspondances entre les deux événements sont considérables. Et en gros, je dirais que les mêmes problèmes étaient posés en URSS et en Chine et ont eu des réponses extrêmement différentes. Alors, quelle est l'interaction entre les deux? C'est une vraie question. Il me semble qu'au moment où les Chinois, en début juin 1989, prennent la décision de réprimer, ça correspond au moment où en Europe, on a des élections en Pologne.
Et même jour que la répression.
Voilà, et donc je crois qu'il y a des interactions dans les deux sens.
La peur de la contagion.
Et absolument, et donc peur d'un phénomène polonais, oui, du côté chinois, ce qui était tout à fait inédit, important et qui changeait les choses. Même problème dans les deux cas, des éléments de référence dans les deux cas, mais des réponses, on le sait, extrêmement différentes. Retour à un certain despotisme oriental, pourrait-on dire, côté Asie, et puis évolution vers une sorte de démocratie en Russie, dont évidemment l'efficacité reste à voir.
En tout cas, c'est tout à fait intéressant de voir les liens d'événements aussi éloignés en apparence. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Pierre Grosser, Philippe Golub et Hugues Tertrais, dans quelques instants. À tout.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur l'Asie dans les relations internationales. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, auteur de plusieurs ouvrages dont East Asia's Re-Emergence and Global Systemic Change, au Polity Press, Université de Cambridge. Pierre Grosser, historien spécialiste des relations internationales qui enseigne à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs ouvrages également dont le dernier, L'histoire du monde se fait en Asie chez Odile Jacob. Et Hugues Tertrais, historien, professeur émérite à Paris 1, fondateur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Asie pacifique au XXe siècle. Est-ce que la puissance et l'influence chinoise sont aujourd'hui au niveau de celle des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, Pierre Grosser?
Non. Donc non, pourquoi ? Parce que d'abord, 1945 est une conjoncture extrêmement particulière, c'est-à-dire que les États-Unis ont profité de la guerre, il faut le dire, même si c'était pas une volonté, alors que l'Europe est effondrée, l'Asie est en crise depuis très longtemps, la guerre civile en Chine qui reprend, le Japon qui est effondré, et donc c'est une hégémonie en partie par défaut. Et c'est pour ça qu'en fait, on a, à partir de 73, 74, une espèce de rééquilibrage, j'allais dire naturel, avec le retour des puissances japonaises, européennes, et donc toujours une prédominance américaine, mais quelque chose qui est quand même un petit peu plus équilibré. Donc la Chine, à côté de ça, a un potentiel, s'il n'y a pas d'accident ou de crise ou autre chose, c'est toujours la grande question de faire des projections linéaires, comme Tertrais disait tout à l'heure, sur 2050. C'est qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 2050. Et l'histoire chinoise n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Mmh. Bon, donc, il peut encore se passer des choses, mais le potentiel, évidemment, étant donné la taille, étant donné la population, est tout à fait considérable. La seule question que l'on se pose actuellement, c'est de savoir si la Chine suivra la même voie que les États-Unis au XIXe siècle. Et les Chinois sont très attentifs à ça. À la fin du XIXe siècle, les Américains ont commencé à dominer leur région et à commencer à avoir une puissance plus mondiale. Et donc là, est-ce qu'il y a l'ambition d'avoir une espèce de doctrine Monroe asiatique pour les Chinois ? Et puis, dans un deuxième temps, de devenir une puissance mondiale comme les Américains le sont devenus. Alors, ils peuvent même accélérer, faire les deux à la fois, ce qui est peut-être, en tout cas à l'échelle eurasiatique, quelque chose qu'ils sont déjà en train de penser. Moi, je pense que l'horizon intellectuel des Chinois, c'est 2049, le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, et montré que le régime communiste a totalement transformé la place de la Chine dans les relations internationales de puissance humiliée en puissance triomphante.
Hugues Tertrais, vous souhaitez réagir? Après ça, on passera la parole à Philippe Golub. Peut-être un commentaire sur la notion de doctrine Monroe-asiatique. Évidemment, il y va de la capacité des uns et des autres, des puissances régionales, à accepter cette
tout à fait, tout
perspective.
À fait. Un tout petit mot pour revenir sur la prévisibilité ou l'imprévisibilité des choses en Asie. J'ai parlé de 2050, mais je suis entièrement d'accord qu'il est impossible de faire des plans de ce type. Je veux dire, on voit à peu près les tendances générales, mais les accidents, par définition, sont imprévisible. Mmh. Et donc, oui, tout peut se produire. Et le contraire, si on avait dit avant la guerre du Vietnam qu'il y aurait eu la guerre du Vietnam, personne ne le croyait. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire de prévision. Doctrine Monroe, je dirais qu'il y a un modèle américain. La doctrine Monroe, on en parle en Asie depuis assez longtemps. On en a parlé à propos du Japon, d'abord. Mmh. C'était autour de la Première Guerre mondiale. Maintenant, on l'évoque autour de la Chine. Bon, moi, je pense simplement que la doctrine Monroe, c'est l'idée de pas forcément de l'hégémonie, de l'importance d'une puissance dans la région dans laquelle elle est. Et donc, c'est pour les États-Unis, on voit bien sur le continent américain. Pour l'Asie, on voit bien l'importance du Japon au début du siècle, ou dans la première moitié du XXe siècle, en tout cas. Aujourd'hui, la Chine, je crois plutôt qu'on irait vers de nouveaux équilibres, plutôt qu'une puissance dominante qui développerait une hégémonie au singulier, si j'ose dire. C'est vrai qu'entre le Japon, qui n'est pas mort du tout, et la Chine en particulier, de nouvelles frontières sont à trouver. Elles ne sont pas encore trouvées. Donc, lequel des deux aurait l'hégémonie régionale? Mais en même temps, d'autres pays comme l'Inde sont en train de monter. L'Asie du Sud-Est, avec ses 600 millions d'habitants, n'est pas ridicule du tout, avec des pays qui sont plus petits, mais qui sont intéressés aussi à l'intégration régionale, et qui, si elle arrive à maintenir ou à développer une unité régionale, peut avoir son mot à dire aussi dans la région.
Philippe Golub.
Je pense que les dirigeants chinois, il y a des textes qui le soulignent très bien, les dirigeants chinois et les intellectuels qui gravitent autour de la direction chinoise comparent fréquemment la position actuelle de la Chine, la tendance, à celle des États-Unis en fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand les États-Unis ont commencé à se globaliser et à devenir la puissance industrielle prédominante du monde. Mais cette comparaison vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que les Chinois savent très bien eux-mêmes qu'il existe en Chine et dans le pourtour chinois des zones de vulnérabilité très importantes. Et le plus grand défi chinois aujourd'hui était en interne plutôt qu'en externe. C'est-à-dire que la Chine doit régler des problèmes à des échelles gigantesques, des problèmes environnementaux, des problèmes d'urbanisme, des problèmes de construction du marché national. Enfin, il faut dire que, d'un point de vue, la comparaison ne marche pas très bien, puisque les États-Unis ont réussi effectivement à éjecter les puissances européennes et les puissances internationales de l'hémisphère ouest, alors que la Chine fait face dans la région, non seulement au Japon, comme Catherine l'a dit très justement, et aux pays d'Asie du Sud-Est, mais encore et surtout pour les États-Unis, qui reste la puissance militaire dominante de la région. Les États-Unis sont devenus la puissance militaire dominante de l'hémisphère ouest en fin du 19e. Aujourd'hui, les États-Unis disposent d'une supériorité militaire incontestable en Asie orientale, dans la mer de Chine du Sud, etc. Donc, ça prendra tout le temps, me semble-t-il, avant que la Chine ne puisse même commencer à réfléchir à déplacer les États-Unis de cette position.
Pierre Grosser, est-ce qu'il faut finalement distinguer la puissance militaire des États-Unis en Asie de la puissance économique ? C'est-à-dire que finalement, quand on voit la volonté de Donald Trump de se retirer d'une certaine manière, en tout cas de privilégier l'Amérique comme il l'a annoncé, comment analyser cela et finalement qu'est-ce que cela veut dire pour la Chine et les puissances régionales que vous évoquiez précédemment, ultra-trait, le Japon, l'Inde et les dragons d'Asie du Sud-Est.
Écoute, d'abord, le problème, c'est de savoir ce que veut Trump, parce que ça, je sais même pas si lui-même le sait, mais cette administration américaine. Je crois qu'effectivement, on a beaucoup réfléchi en termes de retrait, d'équilibrage à distance ou autre chose, mais on l'a vu très très rapidement que du côté de la défense et du côté du département d'État, mais encore plus du côté de la défense, on voulait maintenir très largement le système d'alliance qui est absolument nécessaire pour que le flux à la fois d'idées et de marchandises avec l'Asie, qui est le pôle dynamique de l'économie mondiale, puisse se poursuivre. Alors évidemment, il a rejeté le TPP, le Trans-Pacific Partnership, de façon, à mon avis, très hâtive, et je me demande s'il le regrette pas très largement aujourd'hui. Mais donc, les États-Unis sont pas partis d'Asie, ne comptent pas partir d'Asie. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs dans la région sont en train de multiplier finalement les voyages, multiplier les accords, multiplier les partenariats, etc., pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et surtout ne pas être trop entraîné dans une rivalité potentielle entre la Chine et les États-Unis. On voit le Japon qui a de nouveau des bonnes relations avec la Chine depuis quelques mois. Il n'y a jamais eu autant de relations et de voyages et de rencontres entre un chef d'État russe et japonais que ces derniers temps entre Monsieur Abe et Monsieur Poutine. Le Vietnam commence à aller parler à tout le monde. L'Australie et l'Inde se parlent beaucoup. Le Japon, l'Australie, l'Inde. Enfin voilà, on multiplie les partenariats et donc le temps des alliances binaires de guerre froide avec des communistes d'un côté, des anticommunistes de l'autre, et je crois tout à fait révolu. Les Américains sont là. La question chinoise, est-ce qu'on veut pas en partie neutraliser cette puissance militaire ? Alors c'est toute la question d'empêcher l'accès et l'efficacité finalement des militaires américains. Mais en même temps, les États-Unis sont utiles pour finalement au Japon, contrôler le Japon, éviter une possible renucléarisation, nucléarisation du Japon. Et puis on voit bien la Chine qui joue la carte russe pour embêter un peu les Américains, qui joue la carte centra-asiatique parce qu'ils sont en partie coincés dans le Pacifique. Voilà, le jeu est extrêmement, me semble-t-il, extrêmement ouvert.
Hugues Tertrais.
Oui, moi je pense aussi que les équilibres sont en train de se recomposer en quelque sorte, de se reformer, et que les États-Unis sont là, sont présents, ils sont pas sur le départ. Le Japon est là aussi, la Chine de plus en plus justement, et c'est ça l'élément sans doute nouveau de cette configuration, c'est la puissance militaire chinoise qui est perçue comme un manifeste de puissance de la Chine. On a vu par exemple au 3 septembre 2015 des défilés militaires sur la place Tiananmen qui célébraient, c'est une décision sans doute tardive des Chinois mais c'était significatif, les 70 ans de la victoire contre le Japon. Donc ils ont fait vraiment une manifestation spectaculaire montrant leur puissance militaire potentielle parce qu'ils l'utilisent pas non plus. Et donc Il y a tout cet aspect qui me paraît important, avec des équilibres qui se modifient constamment en fonction de la montée en puissance des uns ou des autres. Je dirais qu'il faudrait distinguer les événements du moment et les tendances générales. Par exemple, sur le plan économique, le président américain Trump, effectivement, balaye l'accord de partenariat transpacifique. Mais enfin, il n'empêche pas le fait que depuis le début du siècle, du 20e, 100 ans, les États-Unis ont toujours encouragé et accompagné le libre-échange en Asie, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, et en particulier depuis les années récentes, les années 90, les années du Forum Asie-Pacifique, l'Asie de la paix, et la déclaration de Bogor en particulier, en 94, qui va vers le libre-échange. Donc, l'idée de ne pas contresigner l'accord de partenariat transpacifique est une chose, ça ne remet pas en cause le reste, me semble-t-il. Et donc, les États-Unis restent une puissance libre-échangiste qui dirige, me semble-t-il aussi, le monde dans cette direction. Alors, faut évaluer ce que Trump va réussir à faire ou ne pas faire. Moi, je pense qu'il faut distinguer l'actualité, en quelque sorte, de la tendance générale, mais c'est vrai sur le plan militaire également, à débattre.
À débattre. Alors, peut-être un commentaire, Philippe Goulieu. Alors, moi, pour les événements en tout cas, les décisions prises par Donald Trump, donc le non-aboutissement du TPP, il y a aussi le retrait sur le climat. Tout ça, c'est tout de même des sortes de boulevards qui sont offerts à la Chine. Et la question est de savoir comment Pékin peut envisager la chose et quel rôle elle est prête à prendre pour elle-même. Philippe Goulieu.
En supposant que la Chine sache profiter de ces opportunités stratégiques et de ces ouvertures. On ne le sait pas encore, on le verra dans la pratique et dans la diplomatie chinoise dans les années à venir. Mais il me semble qu'il faut garder à l'esprit que la position américaine est une position qui doit être analysée aussi en fonction des idéologies, des dynamiques internes américaines. Il existe un noyau dur de nationalistes américains, je dirais d'ailleurs d'ultra-nationalistes américains, qui estiment qu'au sein de l'administration de Trump, mais plus largement dans les institutions de sécurité, l'État de sécurité nationale américain, et chez certains théoriciens réalistes américains, l'idée que les États-Unis doivent maintenant saisir le moment pour tenter de contenir la Chine. Il existe un courant de pensée qui n'est pas nécessairement majoritaire, mais qui existe bel et bien et qui se manifeste dans l'administration Trump, qui estime qu'il faut agir maintenant pour contenir l'émergence de la Chine en tant que très grande puissance à l'avenir. Et donc les potentialités de choc, me semble-t-il, sont réelles. On n'est pas dans une configuration où un choc sino-américain est impensable. Un choc sino-américain est pensable en mer de Chine du Sud, dans la péninsule coréenne ou ailleurs. Donc la question est aussi de savoir là comment la Chine sera gérée, ce qui se passe en interne dans les élites américaines pour réagir justement, pour ne pas attiser justement les possibilités d'un choc venu côté américain, car pour la Chine, un choc frontal avec les États-Unis remettrait en cause leur dynamique développementale.
Alors, commentaire peut-être, Pierre Grosser, sur les potentialités de choc réel ou pas entre la Chine et les États-Unis.
Alors, sur la question du choc et des guerres possibles, il y a un livre de Graham Allison qui vient de sortir, qui reprend l'idée de piège à la Thucydide, il compare avec l'Empire britannique face à l'Allemagne, etc., avec une ignorance de l'histoire absolument abyssale, et il était déjà pas bon sur la crise de Cuba, là c'est encore pire. Donc, si vous voulez, cette espèce d'utilisation de l'histoire par des politiciens qui ne connaissent pas bien l'histoire est assez pénible. En revanche, il y a un certain nombre de réalités dans l'esprit effectivement de certains Américains, c'est cette loi de la surexpansion impériale, c'est-à-dire que à force dans les années récentes d'intervenir partout, d'être présent militaire partout, ça asphyxie l'économie américaine, c'était déjà une thèse qui existait à l'époque de Paul Kennedy à la fin des années 1980, et donc il faut limiter finalement cette expansion, sinon de toute façon on va s'étouffer. Ça c'est la première chose, et donc évidemment ça laisse en partie de la place à la Chine. Et je crois qu'une des leçons, c'est quand même on a fait la guerre, enfin les Américains ont fait la guerre depuis 2001 dans le Grand Moyen-Orient, et ça a ouvert un boulevard à la Chine, parce que ça leur a coûté cher, et ça a focalisé leur attention sur une autre région. En gros, depuis 1919, ils s'intéressent au Grand Moyen-Orient, et encore plus depuis 2001. Et la deuxième réflexion, me semble-t-il, c'est que leur hégémonie libérale relativement tolérante et ouverte, je ne parle pas d'un point de vue politique, mais a finalement là aussi ouvert un boulevard à la Chine. C'est-à-dire que la Chine, en fait, elle ne veut pas renverser les règles du jeu parce qu'elle en profite très largement. et en trichant, en essayant de jouer sur des certaines formes de protectionnisme, en essayant longtemps de jouer sur le fait que c'était encore un pays du tiers-monde, donc on devait la traiter de façon différente, sur notamment sur la question climatique, hein, pendant longtemps.
Ça, ça l'arrange aussi ça. Dans cette...
Ça l'arrangeait. Mais les États-Unis, parce que ça leur c'était un dynamisme économique, ils voyaient leur intérêt. Or là, ils sont en train de perdre un peu avec les règles du jeu qu'ils ont eux-mêmes créées et qu'ils ont instituées. Et donc l'idée, c'est non pas de changer profondément les règles du jeu, mais de pousser les Chinois à respecter totalement les règles du jeu, notamment sur la question de la concurrence. Et Trump, c'est quand même très largement ça. Il dit que les Chinois trichent, exactement comme les Américains dans les années 80 disaient que les Japonais qui avaient profité de la croissance avec les règles du jeu américaines trichaient parce que c'était un système opaque, on pouvait difficilement investir au Japon, etc., etc. Donc l'hégémonie américaine semble coûteuse. Et donc il va falloir, c'est je pense ça qui a permis l'élection de Trump et c'est la réflexion qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui, c'est comment trouver une forme d'hégémonie toujours, parce que je pense que personne ne renonce à l'hégémonie américaine aux États-Unis, mais qui soit moins coûteuse pour les États-Unis et dont les autres ne profitent pas autant. Parce qu'on a l'impression que c'est tous les autres qui en profitent, sauf les États-Unis et surtout le travailleur américain. Et ça, je crois que ça va être le grand défi, au-delà de l'affrontement militaire que personne, je pense, ne souhaite réellement, parce que je veux dire, personne ne voit ce qui pourrait sortir de ce type d'affrontement militaire.
Ultra-trail.
Je crois qu'effectivement, personne ne renonce à l'hégémonie, en particulier l'hégémonie potentielle. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, on peut être tranquille, les États sont tous les mêmes autour du monde. Pour autant, je pense que la notion de containment elle-même est une notion dépassée. C'est-à-dire qu'elle s'est exprimée en Europe, en particulier au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, le discours de Fulton, le discours de Churchill qui descend le rideau de fer au milieu de l'Europe. Puis le containment, évidemment, au-delà, c'est pas seulement le rideau de fer. L'Asie a eu aussi son rideau de fer, si je puis dire, avec le discours de Truman de juin 1950, quand il trace une ligne, mettant d'un côté de cette ligne la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, les Philippines, à défendre contre la partie continentale de l'Asie, communiste principalement à ce moment-là. Donc c'est pas seulement du containment, mais c'est une ligne de partage qui va marquer toute la période suivante. On n'en est plus du tout là, parce que effectivement, le poids économique en particulier et militaire des uns et des autres a beaucoup évolué, a beaucoup changé, et en particulier celui de la Chine, et continue de changer. Donc des chocs possibles, ça me paraît évident qu'il y en a. Le risque existe sur plusieurs théâtres, en particulier en Asie du Sud-Est, mais en même temps, l'histoire existe et les gens de la région la connaissent un petit peu, mais enfin, on ne peut pas écarter le choc. Le nucléaire nord-coréen n'est pas nécessairement le plus dangereux. Et donc, faut voir. Effectivement, la situation est assez préoccupante et est assez complexe. Containment, oui, en ce sens que, effectivement, chacun doit préserver son hégémonie et doit préserver sa position. Mais containment dépassé, parce qu'effectivement, les réalités du moment sont différentes, me semble-t-il.
Pierre Grosser et après ça Philippe Gollum, mais en quelques secondes, Pierre Grosser.
Juste sur le containment, il y avait deux visions du containment, une vision containment globale et agressive, et l'autre qui est juste l'équilibre des forces. Et le containment n'est plus possible parce qu'il y a une interdépendance économique qui n'existait pas entre États-Unis et Union soviétique, tout simplement.
Philippe Gollum, très rapidement.
Oui, je pense que les réalistes et les néo-réalistes américains sont hors sujet en quelque sorte, mais les perceptions engendre parfois les réalités. On est dans l'administration américaine actuelle dans un danger de création, de stimulation, de prophéties autoréalisatrices.
Je crois que nous aurons l'occasion de redévelopper sur cette notion. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Philippe Gollub qui était avec nous par téléphone. Philippe Gollub qui est professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris et auteur de plusieurs ouvrages dont East Asia's Re-Emergence and Global Systemic Change, Géopolitique Press, Université de Cambridge. Pierre Grosser, historien spécialiste des relations internationales qui enseigne à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, L'histoire du monde se fait en Asie chez Odile Jacob. Et Hugues Tertrais, historien, professeur émérite à Paris 1, fondateur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine et son dernier ouvrage, L'Asie pacifique au XXe siècle, chez Armand Collin. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Zoé Pallier, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la démocratie dans le monde. À demain.